Alors que nous commémorons ces jours-ci les 75 ans de la libération d'Auschwitz, je vous propose de nous attarder sur ces personnes qui ont permis de sauver des Juifs. Pendant la guerre, on les appelle « justes parmi les nations ». C'est le thème d'une conférence que l'historien Patrick Cabanel donne ce soir à Rodez, en mettant un focus sur les justes de l'Aveyron. On va les découvrir ensemble. Bonjour Patrick Cabanel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio sur le fil du rasoir. Vous êtes arrivé. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet. Notamment « Histoire des justes en France », c'est paru chez Armand Collin en 2012. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études à Paris, ancien Toulousain, m'avez-vous dit. Hein.
20 ans à la fac du Mirail.
20 ans à la fac du Mirail, c'est quelque chose. Alors avant de mettre des noms et des histoires surtout hein, sur ces justes d'Aveyron, il est peut-être nécessaire de revenir à cette appellation surprenante, étonnante, « juste parmi les nations », ça veut dire quoi ?
C'est la distinction la plus haute que l'État d'Israël peut décerner à un civil, et c'est une distinction qui est décernée à des non-juifs qui ont sauvé ou contribué à sauver, au péril de leur vie, dit le texte, au moins un juif pendant la Shoah en Europe.
Sauver un juif pendant la Shoah en Europe. Alors, j'ai vu que cette expression « juste parmi les nations », elle se trouve également dans le Talmud.
Oui, c'est une très vieille expression juive, avec cette phrase qui est souvent citée, qui est célèbre, « qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Et l'idée, c'est une très vieille idée des juifs, c'est de dire merci aux gentils, comme on disait jadis, qui ont, à travers l'histoire d'ailleurs, aidé des juifs. Et en l'occurrence, dans les années 40, c'est vraiment face à l'Holocauste, soit la Shoah, que la chose a été décernée.
Ouais, c'est dire tout de même, si c'est présent dans le Talmud, à quel point il y a, dès les origines, la prédiction des horreurs qui allaient peut-être se passer.
C'est-à-dire, c'est la très longue histoire qui n'est pas finie, l'histoire de la persécution, de la haine contre les Juifs, dont on pensait qu'elle se terminerait avec la Shoah et qui n'est absolument pas terminée.
Et qui n'est pas terminée. Alors, c'est la plus haute distinction, c'est l'État d'Israël, vous nous dites, hein, qui la remet, qui donne cet honneur donc qui est un honneur après coup, hein.
Oui, c'est une institution qui est très célèbre en Israël et dans le monde, qui s'appelle Yad Vashem, qui est à la fois un mémorial, un musée. Il y a aussi ce que l'on appelle précisément l'allée des justes, c'est-à-dire c'était une très belle idée, qui est une idée d'ailleurs juive, qui aujourd'hui n'est plus en marche parce que l'espace est saturé. L'idée, c'était de planter un arbre à la mémoire de chaque juste. On dit d'ailleurs que le dernier arbre qui a été planté avant que la colline soit saturée, c'était l'arbre en l'honneur du cardinal Saliège.
Ah oui, cardinal,
voilà, donc
bien connu
vous,
chez nous.
Si vous prenez l'allée des justes, vous avez tout de suite l'arbre du fameux Oscar Schindler, et ainsi de suite.
Oscar Schindler, à qui Spielberg a rendu un brillant hommage dans un film. Alors à Yad Vashem, on peut les voir d'ailleurs, il y a les arbres pour les justes, et puis il y a les images des photos des juifs.
Absolument.
J'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre. Qui décide ? Vous nous avez dit c'est l'État d'Israël qui décide, qui remet cette distinction. Qui décide qui est juste ou qui ne l'est pas, et comment ça se fait cette...
Alors c'est une commission présidée par un juge, et pour nous historiens c'est presque d'ailleurs surprenant, je dirais même pas dérangeant, mais un peu, c'est-à-dire ce n'est pas un processus historique, c'est un processus judiciaire.
C'est-à-dire
c'est comme dans un procès, il faut qu'il y ait un témoignage direct, soit naguère, d'un juif ayant survécu à la Shoah et pouvant témoigner nommément de la personne qui l'avait sauvé, soit d'un ayant droit. Ça peut être un fils de juste. Aujourd'hui, les derniers qui témoignent, ce sont les fameux enfants cachés, c'est-à-dire des gens qui avaient quelques années au moment de la guerre et qui peuvent encore se souvenir. Mais le travail d'un historien peut être respectable, mais ne suffirait pas, par exemple, à faire nommer un juste. C'est la raison pour laquelle à Toulouse, une des plus belles figures de la résistance spirituelle catholique, Monsieur de Solages, le recteur de l'Institut catholique, n'a pas été déclaré, ne pourra pas être déclaré juste, parce qu'il ne s'est trouvé personne de vivant, juif, pour dire cet homme-là m'a sauvé.
Quand bien même plusieurs personnes auraient été témoins de ce qu'il a fait pendant la guerre. Ça veut dire qu'il y a des justes, beaucoup de justes qui s'ignorent, beaucoup de personnes qui ont sauvé des juifs qui n'ont pas eu cette reconnaissance.
Absolument. Je pense que pour injuste parmi les nations qui a été déclarée, il y a peut-être 100 autres personnes qui auraient mérité de l'être.
Il y en aurait 2700 en France ?
Non, en France aujourd'hui, on vient de passer le cap des 4000.
4000, ah oui,
qui fait que la France est le troisième contingent de justes en Europe, après la Pologne et après la Hollande. Mais vous le voyez, c'est une étrange distinction, parce que la Pologne, je crois que c'est à peu près 7000 justes. Mais en même temps, c'est le pays où 3 millions de juifs ont disparu dans la Shoah. Donc, il n'y a pas de relation mathématique, si vous voulez, arithmétique, entre le nombre de justes et le nombre de juifs survivants.
Enfin, alors, oui, c'est vrai que c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Et alors, en France, donc 4000, vous nous dites, on corrige nos chiffres. 4000, pour combien de juifs sauvés ? Est-ce qu'on a cette idée ?
Oui, alors, le chiffre est très connu. C'est 75% des juifs qui étaient présents en France, français et étrangers, et qui ont échappé à la Shoah. C'est l'un des chiffres
énorme.
De sauvetage les plus élevés.
Énorme.
Et voilà, ça veut dire que 25% ont disparu. Donc, c'est 80 000 qui ont disparu. Et c'est environ, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est environ 240 000 qui ont survécu. Alors, il faut être clair, hein, je ne veux pas être trop lent, mais la plupart des Juifs ont survécu parce qu'ils ont pris eux-mêmes en main leur
ouais.
salut,
ouais.
et qu'il y avait beaucoup de militants, de jeunes militants juifs, de réseaux juifs, qui ont contribué à sauver les Juifs.
Mm-hmm.
Mais très souvent, pour sauver un Juif sous Vichy et face aux Allemands, il est besoin de beaucoup de personnes, à la fois donc des militants juifs, et puis ces fameux justes parmi les nations qui ne sont pas juifs, et qui sont intervenus, je dirais, de manière parfaitement désintéressée et généreuse.
Qui se sont conduits comme tels, mais n'ont pas eu la reconnaissance. Alors ce soir, vous mettez un focus en Aveyron, sur les justes parmi les nations en Aveyron. On va y venir. Avant ça, peut-être, donnez-nous un panorama. Vous êtes venu avec une carte pour me montrer où sont plus massivement concentrés les justes. C'est assez étonnant, cette carte. Elle
oui.
donne beaucoup d'indications.
Alors le problème de la radio, c'est...
Alors on ne peut pas la voir, mais vous allez nous en donner la substantifique moelle.
Cette carte montre, c'est le nombre de justes rapportés à la population du département en 1936, dernier recensement à l'époque. Ça montre que c'est extrêmement contrasté et inégalitaire. Il y a des départements où il n'y a quasiment pas de justes.
Fonction de quoi alors ?
Et d'autres. Alors, il y a plusieurs géographies. Il y a d'abord les départements frontaliers, en particulier la Savoie, parce que chaque fois qu'il fallait faire passer des juifs en Suisse, là, il y a des gens qui ont pris des risques. Dans les départements frontaliers, c'est-à-dire le long de la frontière suisse, un peu moins de la frontière espagnole, mais aussi de la frontière intérieure de la France à l'époque, qui était la ligne de démarcation, là, il y a plus de justes que dans la moyenne. Le deuxième type de département, ce sont les départements avec une minorité protestante.
Et
ça explique en particulier, c'est très connu aujourd'hui, que la Haute-Loire, qui avait une toute petite minorité protestante autour du Chambon-sur-Lignon, un village qui est célèbre en Israël, et le département qui a le plus de justes proportionnellement à la population en France.
Comment on l'explique, cette accointance des protestants pour les juifs ?
Ça pourrait être long à dire. D'un mot, il y a d'abord des raisons théologiques. Le calvinisme, il s'agit bien du protestantisme calviniste réformé à la française. Parce que le protestantisme luthérien qu'on trouve en Allemagne, et je dirais à peu près aussi anti-judaïque ou antisémite que le catholicisme polonais ou que l'orthodoxie roumaine de l'époque. Et puis il y a des raisons aussi socio-historiques, c'est-à-dire les Français, les protestants français, les huguenots, comme on dit, étaient une minorité persécutée dans l'histoire. Et donc ils ont regardé les juifs avec un regard, je dirais, une sorte de familiarité de la minorité de la persécution. Voilà.
Et ils se sont retrouvés dans la persécution.
Voilà. Et je voudrais quand même dire un mot des catholiques. On montre aussi dans cette carte que les départements qui correspondent aux diocèses dans lesquels les évêques ont protesté contre les rafles en août 42 ont plus de justes que la moyenne. Alors c'est pas le cas de Rodez, dont l'évêque était, je dirais, un pétainiste bon teint dans la moyenne, mais c'est le cas en particulier du département de la Haute-Garonne,
Monseigneur Saliège,
département du Tarn et du Tarn-et-Garonne avec Monsieur Théas et Monsieur Mousseron Albi.
Voilà, donc vous réhabilitez tout de même les catholiques après avoir donné
beaucoup. C'est pas une réhabilitation, c'est un commentaire de la carte.
Bien entendu, mais on voit tout de même la Lozère, effectivement, à proximité des Cévennes.
La Lozère, ce sont les Cévennes protestantes qui expliquent aussi son bon score.
Alors, l'Aveyron, allons en Aveyron. C'est sur l'Aveyron que vous donnez une conférence ce soir. C'est à Rodez. Comment est-ce que les Aveyronnais se sont illustrés ou pas ? Je crois qu'il y a 46
oui.
justes hein,
oui.
en Aveyron. 46, dont 5 qui ont été reconnus tout récemment. Hein.
Oui.
Tout récemment, ça illustre le processus très particulier que vous nous avez donné tout à l'heure. On va rappeler peut-être le contexte, l'Aveyron, zone libre.
Oui, bien sûr, on est en zone non occupée. On est dans, je dirais, l'une des régions les plus catholiques de France. On a un évêque, Monsieur Chaillol, qui, je répète, est un évêque dans la moyenne des évêques pétainistes. Donc, il y a, on le sait bien, il y avait surtout au début de Vichy, entre le monde catholique, sa hiérarchie, et puis le nouveau régime, une sorte d'acquaintance profonde, voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans un milieu qui pourrait plus facilement que d'autres. Je pense en particulier à des départements plus sécularisés que l'on trouve du côté du Périgord. On n'est pas dans une France laïque, républicaine, de gauche, entre guillemets. On est une France de droite. Donc, c'est peut-être plus difficile d'avoir une autre attitude par rapport aux Juifs que dans la France protestante philosémite ou dans la France républicaine laïque. Et pourtant, il y a, et notamment dans le catholicisme aveyronnais, et notamment dans le clergé aveyronnais, oui, il y a de très belles figures de juste.
Eh bien, on va les donner. Hein. On pense évidemment au couvent de Massippe.
Oui, c'est le... C'est au-delà de l'Aveyron. C'est vraiment une des belles histoires de sauvetage, à la fois sur le plan quantitatif, il y a quand même quelques dizaines d'enfants, ce sont des enfants, et sur le plan qualitatif. Je pense que, voilà, on cite souvent ici Monsieur Saliège, le champ mentionnant dont j'ai parlé, on peut vraiment faire de Massippe, je dirais, une page assez glorieuse de la générosité aveyronnaise. C'est très lié d'ailleurs à Monsieur Saliège.
C'est à Cap de Nac, hein, Massippe. Hein.
Voilà, c'est à la limite entre l'Hôte et l'Aveyron, et là, c'est un couvent qui a, en lien liaison directe avec Mademoiselle Thèbes, qui était ici une des assistantes du milieu de Saliège, qui a exfiltré en fait des enfants juifs étrangers de la région de Toulouse et du Lauragais, et qui les a cachés avec réussite jusqu'à la fin de la guerre.
60 enfants, je crois, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
60 enfants
et
cachés.
Et des religieuses catholiques qui les ont sauvés.
Par Louis, on connaissait à l'époque les risques qu'on encourait.
Non. En fait, on les connaissait pas. On pouvait penser qu'ils étaient extrêmement graves. Les historiens aujourd'hui savent que sauver un juif en France ne faisait pas courir les mêmes dangers que sauver un juif en Pologne ou en Ukraine, où là, si on était découvert, c'était la mort immédiate. Il y avait, objectivement, il y avait moins de dangers à l'ouest qu'à l'est de l'Europe, mais les gens ne le savaient pas.
Et est-ce qu'on savait également à quoi étaient réellement exposés les juifs ?
Non.
Non.
Non, on savait pas.
On savait qu'un danger les menaçait, on savait pas de quel danger.
Voilà, on avait vu, il y avait des scènes, les enfants séparés des parents, des scènes terribles, et qui notamment, frappaient la conscience chrétienne et familiale. Mais on croyait savoir, y compris les juifs, qu'il y avait une déportation pour travailler à l'Est. On ne savait pas du tout.
Et comment on devient ce héros alors? Comment on devient, vous avez parlé des religieuses, mais j'imagine des agriculteurs, des boulangers.
Absolument, oui, il y a des paysans, bien sûr. On devient un héros sans le savoir et sans le vouloir. Et ça, les justes l'ont toujours dit. Ils n'ont jamais eu le sentiment, ni pendant les faits, ni après, ce qui d'ailleurs rend difficile le travail des historiens.
Ouais.
Ils n'ont jamais eu le sentiment d'être des héros, ni même d'avoir marqué l'histoire. Ça se fait, je dirais, de manière presque spontanée. On a peur. On est dans la spontanéité, dans l'urgence absolue. Et c'est, je crois que ce sont des dizaines d'années après, lorsque notamment le geste viendra des juifs eux-mêmes qui veulent faire leur reconnaissance, il viendra de Yad Vashem, que les gens ont appris qu'ils avaient fait quelque chose qui était digne d'entrer dans d'histoire. Mais à l'époque, ils n'en doutent absolument pas. Ils ne font ça absolument pas dans l'idée que leur nom va un jour être sur des stèles ou des plaques.
C'est leur humanité, leur conscience
absolument,
religieuse,
oui.
Républicaine, vous m'avez dit parfois aussi dans
Alors,
certains
pour les
départements.
Gens, je pense à des instituteurs laïcs hein,
ouais.
Qui ont sauvé pas mal d'enfants. Parce qu'évidemment, lorsque vous êtes instituteur, lorsque vous êtes religieuse dans des maisons d'enfants, vous êtes, je dirais, placés au front pour être invité ou pas à sauver des enfants. Donc vous avez à la fois dans cette France, qui est à la fois une France catholique et laïque, c'est la France des deux Frances, vous avez, je dirais, des dizaines de religieuses qui sont intervenues et aussi des dizaines d'instituteurs laïcs.
Juste parmi les nations en Aveyron. On envie les Ruthénois qui auront la chance de vous entendre ce soir, Patrick Cabanel. Votre conférence a lieu, c'est à 20h30, aux archives départementales. L'entrée est libre. À noter que cette conférence est organisée à l'initiative du groupe Agora des chrétiens interroge l'histoire. Un immense merci d'être venu nous en donner un aperçu.
Merci à vous.